Pleuen est avec nous pour nous parler de commerce équitable.
Oui, en effet, mercredi dernier, l'association écolo de Sciences Po Rennes, Revolver, organisait une projection autour de la production de cacao et des ravages qu'elle peut engendrer. Alors, outre les ravages écologiques causés par la déforestation, la production de cacao peut avoir des effets sociaux négatifs. Travail forcé des enfants et manque de ressources pour financer leurs études, utilisation de produits à risque pour la santé, accaparement des recettes par les grosses industries, bref, le chocolat dont raffolent particulièrement les Européens, premier consommateur au monde, cache des secrets pas très glamour.
Et tu as pu interviewer les deux intervenants de la conférence notamment, est-ce que tu peux nous les présenter s'il te plaît?
Oui, alors les intervenants étaient Lydie Dagono, militante à Artisans du Monde, et Guy Durand, membre du conseil d'administration d'Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Alors Artisans du Monde, c'est un réseau associatif qui vend des produits artisanaux et alimentaires issus du commerce équitable, et l'asso Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières défend l'agriculture paysanne. Elle soutient les initiatives des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté et fait intervenir des professionnels de l'agriculture pour partager les différentes connaissances et compétences.
Avant d'écouter cet entretien, tu peux nous resituer rapidement ce qui a été abordé lors de la conférence?
Alors on a vu quelques données d'abord. Par exemple, la Côte d'Ivoire produit à elle seule 40% de la production mondiale de cacao, ce qui en fait le premier pays producteur. On a ensuite vu deux petits films. Alors le premier, c'était un reportage d'enquête exclusive. Les journalistes y dévoilaient le travail des enfants dans les exploitations de cacao et insistaient sur le rôle des grosses industries dans la précarité des producteurs. Elles payent les producteurs à un prix misérable et s'accaparent la plus grande partie des recettes. Barry Calbo, Cargill, Olam International, Petra Foods et Blomer sont les cinq acheteurs transformateurs qui s'accaparent plus de trois quarts du marché. Le deuxième film était, lui, un peu plus positif. Il traitait la coopérative El Ceibo, dont on entendra parler dans un instant dans l'entretien. La coopérative, située en Bolivie, se dédie à la production, au séchage et à la transformation locale de cacao. Grâce aux primes versées aux paysans, aux assurances maladies et accidents et aux primes de soutien pour les plus âgés, la coopérative soutient plus de 1000 familles. Un peu plus de la moitié de la production est exportée, mais la vente locale augmente. Les coopératives locales sont donc une alternative à la vente du chocolat par les grandes industries. Mais une autre alternative, c'est le commerce équitable, et on en parle tout de suite avec Lydie Dagono et Guy Durand.
Ce soir, on a parlé de la production de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus gros producteurs de cacao. Est-ce que la consommation actuelle de cacao dans le monde permet aux producteurs de ces pays-là de vivre et d'avoir un salaire et de vivre décemment?
La consommation devrait leur permettre, puisque la consommation, elle est importante et elle va en croissant. Le problème, c'est l'achat, c'est-à-dire c'est les intermédiaires, c'est les acheteurs de fèves, puis les transformateurs. Les deux tiers de la valeur finale, en fait, passent déjà dans les marques et les distributeurs. Donc, en fait, les producteurs, oui, devraient produire plus et gagner plus, mais à condition qu'on leur achète les fèves à des prix plus importants, ce qui n'est pas le cas.
Donc c'est là que le commerce équitable intervient, j'imagine. Donc le commerce équitable, c'est quand il y a un partenariat entre le producteur et le consommateur qui permet une plus grande équité, qui permet aussi une autonomisation. C'est en tant que consommateur, le commerce équitable, ça peut être un outil pour lutter contre tout ça?
Ah bah absolument, le commerce équitable est vraiment un outil pour lutter contre cette exploitation des producteurs, pour leur permettre de vivre mieux, de pouvoir avoir des projets aussi, de se développer. On l'a bien vu avec l'exemple de la coopérative El Ceibo, hein, qui est un petit exemple, mais qui est très significatif. Ça permet effectivement une autre vie pour eux, quoi. Donc, et nous, consommateurs, c'est notre responsabilité, en effet, d'acheter des produits qui sont certifiés, qui nous certifient que, à la fois au plan humain et au plan environnemental, on respecte les personnes et on les traite dignement.
Je voudrais juste préciser qu'effectivement, le commerce équitable, il est effectivement, c'est soit on a une relation directe, c'est le cas par exemple d'Artisans du Monde qui contrôle l'ensemble de la filière, ou l'idée d'avoir une marque qui permette d'authentifier un label de commerce équitable. Et cela, ça permet finalement d'avoir beaucoup plus de producteurs qui vont être touchés par le commerce équitable. Donc c'est aussi très très important, si on veut augmenter le volume de consommation, je peux trouver des produits du commerce équitable aujourd'hui dans la boutique Artisans du Monde, et je peux en trouver aujourd'hui quasiment dans tous les commerces aujourd'hui, à partir du moment où je regarde le label qui est mis dessus, le label Fair Trade. Et donc ça permet à tous les consommateurs d'être face à leur acte de consommation et d'être capable de dire je préfère acheter ce type de chocolat ou le type de café et parce que je sais qu'au bout les producteurs seront mieux payés. Voilà.
Mais dans le commerce équitable, il reste quand même quelques intermédiaires. Alors qu'est-ce qui va changer? C'est la traçabilité? Alors, c'est la transparence?
Juste le point, effectivement, il reste des intermédiaires, ils sont utiles, ils sont nécessaires. Il faut collecter le produit, il faut le transformer, il faut le transporter, il faut le distribuer. Cela dit, le commerce équitable, lui, simplement, par le label, en tous les cas, c'est la partie que je connais le mieux, vous êtes sûr qu'une partie du surprix que vous payez là au moment de l'achat, il est transmis directement au producteur, puisque c'est là qu'on va vérifier le fonctionnement de la labellisation. C'est-à-dire qu'on labellise effectivement des coopératives qui doivent payer un prix minimum, et en plus on doit s'engager pour les importateurs et les torréfacteurs doivent s'engager effectivement à avoir un contrat sur la durée, payer un prix minimum et payer une prime de développement en plus. Donc donner les moyens aux coopératives de base de pouvoir mieux payer les producteurs d'une part, et en même temps de pouvoir soit investir dans leur coopérative, soit fournir des services qu'ils n'ont pas, des écoles, des choses. Donc même si ça n'est pas forcément au commerce équitable de fournir les écoles, mais les coopératives peuvent choisir de financer quelques éléments dans l'école ou le service de santé. C'est à eux de choisir l'utilisation de leur prime. Donc c'est ça qui est important, c'est le surprix d'une part, la garantie du prix minimum. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix qui est convenu. Et ensuite, le fait qu'il y a un contrat sur le moyen terme, et puis le paiement d'une prime du commerce équitable. C'est ça d'ailleurs qui est dans la loi. Aujourd'hui, il y a une loi sur le commerce équitable en France depuis la loi Pacte. Oui, et ça maintenant, le commerce équitable, on ne peut pas dire on est commerce équitable sans remplir ces conditions. Hein. C'est, si vous dites commerce équitable et que vous n'avez pas les spécifications, on peut vous attaquer parce que vous n'êtes pas dans la loi française en tous les cas.
Il y a d'ailleurs un très fort contrôle actuellement sur le commerce équitable. Alors j'ajouterais aussi autre chose d'important dans l'engagement à l'égard des producteurs, c'est le préfinancement. C'est-à-dire que non seulement on s'engage dans la durée, sur un partenariat dont les conditions, donc on détermine ensemble les conditions, c'est négocié, et en plus on préfinance, ce qui permet aux producteurs aussi de pouvoir, eux, investir. Parce qu'un des problèmes souvent des producteurs, c'est qu'ils vendent et sont payés parfois longtemps après. Donc là, ils sont toujours préfinancés, ce qui leur permet, eux, d'investir, de pouvoir travailler correctement.
En Amérique latine aujourd'hui, par exemple, chaque pays qui bénéficie du commerce équitable est organisé. Il y a des plateformes de commerce équitable nationales et il y a une plateforme latino-américaine, qui s'appelle la Coordination latino-américaine du commerce équitable, qui finalement est un acteur important pour représenter les producteurs. Et aujourd'hui en Afrique, il y a aussi ce type de choses. Et on commence à mettre en place des coordinations nationales de commerce équitable en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, etc. Donc on commence maintenant, c'est-à-dire le commerce équitable a permis finalement d'avoir une force politique pour pouvoir demander autre chose et finalement être les interlocuteurs aussi des acteurs. Et ça, c'est à mon avis la chose la plus importante. Au-delà du prix, bien sûr, il faut que le prix soit minimum, mais en même temps, il faut donner les moyens aux populations de pouvoir s'organiser, se structurer et de défendre politiquement leurs intérêts.
De faire évoluer leurs conditions. Je crois que ça, c'est vraiment dans cette perspective-là aussi que se situe le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un outil d'évolution.
D'après l'UNICEF, il y a environ 152 millions d'enfants qui travaillent, alors qu'ils ne devraient pas travailler, et la production de cacao n'est pas épargnée. Quand on achète des produits du commerce équitable, est-ce qu'on aide à faire que les enfants soient scolarisés?
Oui, absolument. Oui, c'est un des piliers du commerce équitable, entre autres. C'est effectivement le travail des enfants. Alors, on l'a bien vu tout à l'heure, hein. On a vu que le travail des enfants, il peut y avoir dans les familles des enfants qui viennent aider, ce qui est différent. Le travail ne doit pas être forcé et surtout le travail ne doit pas aller à l'encontre de l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants puissent bénéficier effectivement de scolarisation et que aussi leur santé ne soit pas compromise par un travail qui est un travail disproportionné par rapport à leurs possibilités. Donc effectivement, le commerce équitable contribue largement à la lutte contre le travail forcé des enfants.
Pour vendre au commerce équitable, il faut avoir une certification. Et si vous ne remplissez pas justement un certain nombre de critères, et notamment le fait de ne pas utiliser de façon permanente le travail des enfants, on vous décertifie, on vous retire la certification. Et ça, c'est important. La certification, c'est comme pour l'agriculture biologique. Si vous ne remplissez pas les critères, il y a des inspecteurs qui passent régulièrement, nationaux d'ailleurs, et qui finalement disent à ce moment-là, on ne peut pas continuer à certifier. Ça, c'est important.
Pour revenir juste sur l'action de Agronomes et Vétérinaires sans frontières, vous aidez les paysans des pays du Sud à se développer, avec avoir d'autres techniques. Ça se passe comment concrètement? Dans quel pays vous agissez? Et c'est une aide seulement financière, technique? C'est des professionnels qui viennent?
On est présent dans 18 pays. On doit avoir, je crois que c'est de l'ordre de 70. Ou plus de 70 projets. Alors, ces projets sont le plus souvent financés sur des financements internationaux, enfin, ou européens, nationaux au niveau français, l'Agence française du développement, éventuellement des entreprises privées, très peu malheureusement, pas assez. Et à partir de là, effectivement, sur le terrain, on a 300 salariés. La majorité des salariés sont des salariés nationaux, qui sont des techniciens ou ingénieurs, donc qui sont porteurs, effectivement, qui vont donner un coup de main à l'organisation, au suivi technique. On développe beaucoup, nous, l'agroécologie, par exemple. Bon, ça ne se met pas tout seul. On voit bien, en France, ce n'est pas forcément évident. Ben, là-bas non plus, ça suppose effectivement une connaissance technique, ça suppose un appui qui est donné effectivement sur place par quelques expatriés. Mais il y a surtout énormément de personnel local qui sont effectivement employés dans le cadre de ces projets. Et donc là, le principe, c'est d'appuyer d'une part les aspects techniques pour faire évoluer les choses et en même temps, d'appui à l'organisation. L'idée, c'est de structurer, c'est d'aider à s'organiser de façon, là encore, à avoir un pouvoir, à prendre un pouvoir économique et un pouvoir politique sur la situation. Et le cas d'El Seibo est typique de ce genre de choses. Hein. Progressivement, à partir de migrants, en fait, El Seibo, on est dans le Alto Beni, on est la partie amazonienne de la Bolivie. Ce sont des gens qui venaient de l'Altiplano, de La Paz, etc., qui se sont installés dans la fin des années 60. C'était des paysans sans terre qui se sont installés là. On leur donnait des terres, ils se sont mis à produire du cacao, du café, des choses comme ça. Ça suppose effectivement un appui technique. Quand ils arrivaient des hauts plateaux, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un cacao. Hein. Pour aller de La Paz au Alto Beni, vous traversez des routes qui, on appelle ça les routes de la mort. Les gens de l'Altiplano ne connaissent pas ces zones-là. Et donc ils arrivent là comme migrants, ils s'installent, ils ont l'accès à la terre dans ces cas-là, donc ça c'est important. Et à partir de là, il y a tout un processus d'organisation et on voit le résultat. Depuis les années 60-70, on voit aujourd'hui une structuration de la Fédération de coopératives qui est en train d'investir aujourd'hui, qui a investi déjà dans El Alto, qui est la partie haute de La Paz, dans laquelle ils ont effectivement un outil de transformation du cacao en chocolat et ils ont un marché national du chocolat maintenant. Et il y a des magasins de distribution. Donc on arrive maintenant à des choses qui sont structurées à une échelle nationale et en même temps ils exportent quand même dans le cadre du commerce équitable. Donc ça leur donne une puissance économique importante alors qu'au départ ça partait de quasiment rien.
Et donc quand on parle de la production de cacao, on pense l'impact écologique que ça, l'impact social que ça, mais il y a aussi du positif, il y a aussi des gens qui, comme vous l'expliquez, qui arrivent à créer des coopératives, qui revendiquent aussi leurs terres face aux grosses industries. Il y a du positif quand même dans tout ça, dans les productions de café, de cacao.
Oui, bien sûr, non seulement il y a l'emploi, il y a le travail, il y a la production, il y a la fierté, il y a la dignité, et puis aussi il y a tout ce qu'ils peuvent apprendre dans la coopérative. Il y a quand même beaucoup d'évolution, les personnes sont formées et elles exercent aussi démocratiquement des droits. C'est-à-dire aussi qu'il y a tout un apprentissage qui correspond bien d'ailleurs à l'état d'esprit hein, de ces populations qu'on a vues là tout à l'heure. Un exercice de la citoyenneté aussi, et on ne peut que s'en réjouir.
Je remercie Guy Durand et Lydie Dagono d'avoir répondu à mes questions. Une boutique Artisan du Monde existe à Rennes, rue Hoche. Alors si les produits issus du commerce équitable ne sont pas adaptés à tous les portefeuilles, s'engager de temps en temps, quand on le peut, en consommant durablement, c'est un geste important. Toutefois, ce n'est peut-être pas toujours le consommateur qu'il faut blâmer, mais plutôt, je sais pas, Nestlé ou Ferrero, enfin ça, je laisse chacun juger.